Donc maintenant, nous pouvons commencer la discussion. Et est-ce que tout est prêt ou est-ce que vous aurez besoin d'un peu de temps après, un petit peu de temps après, on aura 10 minutes de marche, voilà. Comme ça, vous pourrez bien finir. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des thèmes à explorer Oui. Ah, là-bas, qui est après là.
Oui, j'ai une question en fait par rapport aux phrases.
Un peu plus fort.
La fondation qui était faite, c'était de les répéter et puis de les faire se succéder pour ouvrir en fait, le champ de ces phrases à un univers plus large, on va dire. Mais quelle différence on fait entre ça et une prière, par exemple, ou réciter un mantra, ou, parce que ça me fait penser à ça en fait. Je ne sais pas très bien quoi faire avec ça.
D'accord. Non, c'est. Il faut voir, comme je disais, il faut voir que, premièrement, ce n'est pas une prière. Alors, ça a une forme de prière, et vous allez voir que cet après-midi. Alors, pour le moment, je n'ai jamais réussi à trouver une formule en français où il n'y ait pas que je sois. Je n'ai pas encore trouvé. Une ou deux fois, on a essayé d'y penser, soyons heureux, en étant heureux. Donc j'ai pris la formule que l'on trouve dans les textes, hein, dans les textes anciens. Mais il faut voir que c'est en fait juste une formule, une façon d'utiliser les mots pour aller dans cette direction, pour avoir cette intention, et que vraiment, ce n'est pas une prière. Donc ça, c'est la première chose. De voir qu'en fait, d'utiliser des phrases, en fait, il y a toute une technique d'essayer d'avoir des états concentrés, substantiels, intensifs, et en fait, ils utilisent ces phrases de façon à avoir ces états très concentrés, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous utilisez les phrases tout le temps, ben, il n'y a pas de place pour autre chose. Et donc, c'est presque un antidote aux pensées distraites. Et donc, à ce niveau-là, c'est un très bon moyen de se concentrer. Et on pourrait faire un peu, comme vous le faites, une connexion avec le fait que si on récite un mantra, c'est la même chose, ça nous occupe. Et donc, il y a peu de place pour les pensées distraites. Mais il y a une différence avec les mantras, parce que quand on fait les mantras, généralement, un certain sens dans le mantra, une certaine connexion avec quelque chose. Et aussi, il y a toute une idée par rapport au mantra, c'est que généralement, ils ont un effet sonore, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est différent, parce que quand vous dites les phrases, vous les faites en anglais, en français, dans votre langue natale, et donc vous n'allez pas avoir cet effet vibratoire qui est supposé être dans le mantra. Personnellement aussi, je ne vois pas, bien sûr on peut voir cette technique comme juste une technique de concentration, mais personnellement je le vois vraiment rentrant dans cette optique de mettre ensemble l'ancrage et la recherche profonde. Parce que pour moi ce qui est très important, c'est pas seulement de répéter les phrases, mais que quand on utilise les phrases, on essaie de se voir soi-même et les autres avec un regard différent, où on ne se définit pas par les qualités qu'on a ou qu'on n'a pas, les actions qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites, mais on se touche comme un être humain, avec son potentiel de vie. Et je trouve que de voir les gens de cette manière, ça peut changer la façon dont on rencontre quelqu'un. Par exemple, j'ai deux petites histoires par rapport à cette technique de la bienveillance. J'ai une amie qui est actrice de province et qui aime beaucoup cette technique. Et elle l'utilisait beaucoup avec quelqu'un avec qui elle travaillait, qu'elle trouvait très difficile. Alors, avant qu'elles fassent la méditation, tout de suite, ils avaient des problèmes et tout, et tout, et tout. Et puis après, elle a commencé à faire la méditation de la bienveillance. Et elle disait, ben, quand j'arrivais sans a priori, qu'il allait encore être difficile, et là, 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 ça, etc., etc. Et donc, ils avaient 30 minutes de grâce, où elle se sentait plus ouverte et tout ça, puis après 30 minutes, ils commençaient à l'énerver un peu. Mais ça avait quand même apporté un espace intéressant, parce qu'elle le rencontrait, pas comme le gars qui l'énervait, mais comme un être humain, ici et maintenant. De la même manière, il y avait une jeune fille qui nous racontait que de nouveau elle faisait la bienveillance et que ça l'aidait beaucoup par rapport à quand elle allait voir son directeur, qui l'effrayait un petit peu. Et donc, si elle allait le voir et elle se disait « Ah là là, il m'effraie, ça va être effrayant », et puis elle arrivait comme ça, et tout de suite, il commençait à avoir des difficultés. Mais si elle faisait en fait la méditation de la bienveillance, ça la stabilisait, ça l'ouvrait à la possibilité que cette fois-ci, il ne serait peut-être pas aussi effrayant. Et donc, elle arrivait avec beaucoup plus de calme et d'ouverture, et généralement, ça faisait la rencontre un peu plus facile. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne vois pas juste ça comme une façon de se concentrer, mais aussi, il y a aussi cette recherche, cette transformation dans la relation.
Patricia Genoux, elle fait méta en disant « que sais-je être etc. » C'est une autre façon de faire.
Oui, oui, une fois on avait bien discuté tout ça, et en fait, je ne me le rappelais plus. Parce qu'une fois, j'avais fait ça il y a quelques années, puis on avait beaucoup tous discuté le vocabulaire précis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui avait suggéré « puisse ». Alors le problème...
«
Puissais-je ? » Le problème, en fait, pour moi, c'est la grammaire française. qu'est-ce que c'est ? C'est un conjonctif. Machin chose à roulette, quelque chose comme ça. Et donc, c'est aussi, moi je trouve, c'est aussi comment on peut trouver les mots qui résonnent en nous-mêmes. Donc, puis-je être bien, bien. Alors, si vous pouvez le faire en français d'une manière comme ça, et que vous préférez le faire à que je sois, allez-y. Je pense que c'est la façon dont on utilise le français, et moi j'utilise que je sois, de façon à ne pas utiliser ce conjonctif, quelque chose, quelque chose, quelque chose.
C'était juste un commentaire. Ma question, c'est que ce qu'on ne projette pas, sa colère, etc., quand on est en relation dans la vie quotidienne, heureusement que Metta aide à ça, la bienveillance aide à ça, mais en méditation, est-ce que Metta... c'est formidable de pouvoir toucher sa colère, sa peur. Est-ce que Metta, c'est pas une façon de nier un petit peu ce qu'on ressent?
Alors moi, je le vois pas comme ça. Dans un sens, je le vois comme créant un climat de bienveillance. Donc, il est sûr que si vous utilisez les phrases, ça va faire de la concentration. Et là, il n'y aura pas beaucoup de place pour un état intense. Mais c'est de nouveau à voir. Si vous êtes dans un état intense de colère, est-ce que vous allez pouvoir avoir assez de concentration pour faire les phrases? Ça, c'est à voir. Est-ce que les phrases vont apporter un peu de calme ou pas? Ou est-ce que vous allez, dans un sens, réagir aux phrases? Non, je suis en colère, je ne veux pas être bienveillant, ou quoi que ce soit. Mais autrement, là... Je le verrai plus comme une possibilité, parce que soit on fait les phrases et il y a un certain aspect de concentration, soit on fait plus avec l'expérience.
On fait plus
avec l'expérience. Et donc, avec l'expérience, ça ne veut pas dire est-ce que je peux faire l'expérience de la bienveillance, du bonheur ici et maintenant, 150%. Non. C'est est-ce que ici et maintenant, je peux avoir un petit peu de l'expérience du bonheur, d'être heureux, ou d'être en paix, ou d'être en sécurité. Et alors là, si on peut En fait, il peut y avoir deux choses qui peuvent se passer directement, indirectement. Si on part dans l'indirect, de toucher un petit peu de paix en même temps que de faire l'expérience de la colère, va en fait apporter l'équilibre. Ça ne va pas le nier, mais ça va dans un sens dire « je ne suis pas que cet état coléreux, j'ai aussi un petit peu de paix, de sécurité ». Autrement, si on le regarde directement, ça serait comment je peux avoir dans un sens, et là on va vers la qualité, comment je peux avoir un peu de paix autour de cette colère. Comment je peux avoir un peu de sécurité, de presque de bercer cette colère, au lieu de m'identifier à la colère qui fait que ça va se propager dans tout mon être, et après, généralement, je vais l'envoyer aux autres. Mais est-ce que, avec cette bienveillance, je peux être en fait bienveillant dans le fait que les conditions font que je me sens en colère, stressé, triste? Et donc, je pense que de nouveau, ça va un peu aider au rapport qu'on va avoir avec sa colère, avec sa tristesse, avec sa peur ou quoi que ce soit. Donc moi, je le verrais plutôt comme ça. Oui.
Donc en fait, vous sous-entendez qu'il y a une manière d'être bienveillant, même en étant en colère.
Oui.
C'est ça.
Parce qu'il faut voir que je verrais la colère comme une fonction créative. C'est, que ce soit les émotions, les sensations, les pensées, ce sont des fonctions créatives de cet organisme. Et je pense que ce soit la colère, la peur, la tristesse, c'est des fonctions créatives de l'organisme. La colère, ça a différentes fonctions, mais une des principales, c'est de nous donner l'énergie pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que, généralement, c'est très explosif. Qui, dans un sens, pour voir la tristesse, c'est plus pour nous ralentir quand il y a de la souffrance. La peur, c'est pour nous aider à faire attention à ce qui est dangereux. Donc, dans un sens, vous avez une fonction créative qui peut bien sûr devenir habituelle, devenir un peu automatique et devenir amplifiée. Parce que le problème, ce n'est pas tellement avec la chose elle-même, c'est l'amplification, l'identification qui après va là, on va partir dans l'éthique, dans le sens que cette colère, qu'est-ce que ça va... Comment ça va être un déclencheur pour soit que je parle d'une certaine façon ou soit que j'agisse d'une certaine façon. Mais, et donc là, si ça part dans l'automatisme, dans l'amplification, généralement, il y a très peu de bienveillance parce que généralement, on va partir dans la vengeance, on va partir, je veux qu'il fasse l'expérience comme moi, je fais l'expérience de cette souffrance, on va partir dans... quelque chose qui va généralement causer du heurte, qui va causer du mal à soi-même et aux autres. Mais moi, il y a très longtemps de cela, j'assistais à une conférence sur la paix, où il y avait tous les gens parlaient d'une façon très paisible, et on commençait tous à s'endormir. Et tout à coup, il était encore en vie, il y a l'abbé Pierre qui apparaît, et l'abbé Pierre qui nous dit... Je suis en colère. Bon, ça nous a tous réveillés. Et il dit, je suis en colère contre la pauvreté. Je suis en colère contre l'injustice. Et cette colère venait de la bienveillance, en fait. Donc il avait cette fonction créative de la colère qui vous aide à agir. Mais parce qu'elle venait de la bienveillance, ça lui a fait faire des choses incroyables. Il a été le premier à se couper des sans-abri, à vraiment faire des choses incroyables. Mais ça venait de cette énergie d'être en colère contre quelque chose qui est injuste dans un sens. Et de vouloir, à travers cette énergie, le réparer. Et en même temps, il y a un autre aspect dont on parlait, c'était est-ce que je peux être bienveillant par rapport à mes états d'âme ? Parce que souvent, ça c'est un peu la difficulté, c'est que il y a cette idée d'humeur égale, d'équanimité dans le bouddhisme. On en parlait hier de la tonalité neutre. Et donc, si on s'imagine que je dois atteindre un état où, quoi qu'il arrive, je sois dans un état équanime et neutre, ou qu'on imagine que je dois toujours être bienveillant, sans colère et tout ça, parce que c'est vrai que souvent dans le bouddhisme, la colère est très très mal vue, on ne va pas avoir un regard bienveillant envers sa colère, et puis ça ne va pas l'améliorer. Parce que soit on la retourne contre soi, soit on va la retourner contre les autres. Et donc, avec ce regard bienveillant, mais aussi avec le regard profond, avec les quatre efforts, de voir, je ne suis pas toujours en colère. Donc, quel est le déclencheur? Quels sont les facteurs contribuants? Quelles sont les conditions? Et comment je peux, dans un sens, avoir une certaine bienveillance par rapport à ça? Et connaître mes limites. Moi, je pense que la méditation, c'est en partie pour nous aider à connaître nos limites. De voir que, si tout va bien, on est un méditant fantastique et on est bienveillant sans problème. J'aime tout le monde. Si tout va bien, vous aimez tout le monde facilement. Mais si vous êtes fatigué, vous avez mal dormi, quelqu'un vous a fait quelque chose de pas sympathique ou quoi que ce soit, on n'est peut-être pas aussi zen, comme on dit. Ah, mais je me rappelle un jour, il y a beaucoup d'années, j'avais eu un problème physique. Alors, ils avaient appelé l'ambulance, j'étais dans la campagne près de Bordeaux. Je souffrais beaucoup. Et donc, je m'allonge dans l'ambulance. L'ambulance n'a pas de truc pour... leur truc ne marche plus. Amortisseur ne marche pas du tout. Ce qui fait que je suis toujours paf, 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 et je suis aïe, aïe. Et le gars qui me dit, restez zen. J'étais là, j'aimerais vous y voir, restez zen. C'est là que j'ai compris que zen est devenu fait partie du langage français maintenant. Alors, je n'ai pas dit que j'étais un enseignement du zen. Mais donc, de voir que chacun, on va avoir des limites. Et ça, on revient aux efforts. Quelles sont les limites? Si je comprends mes limites, je vais faire un peu plus attention, de telle sorte que peut-être, je peux me faciliter la tâche un peu et être moins en colère, moins longtemps, et en même temps d'accepter qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère et comment je peux m'engager créativement avec cet état. Au lieu de me blâmer, je ne dois pas être comme ça, c'est terrible, etc. Oui.
Oui, moi je veux dire que quand je suis en colère, j'ai l'impression qu'il y a un poison dans moi et cette énergie le fait sortir. Donc la colère, même si elle est destructrice par certains aspects, en tout cas me libère de cette chose qui tourne à l'intérieur et qui est très très toxique et que je sens très toxique. Donc souvent je la laisse aller, la colère, parce qu'après ça va tellement mieux parce que ce truc toxique est sorti. Donc comment on peut garder l'énergie, enfin l'énergie de la colère qui est intense, et l'utiliser autrement?
Oui, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que souvent la colère va s'allier à une sorte de vengeance. C'est pour moi ce qui est très intéressant avec la pleine conscience, c'est d'essayer de comprendre la colère et sa colère. Parce que je pense que tous, on a des mécanismes un peu différents, donc on ressent le même truc un peu qui explose, qui est en nous-mêmes, et donc comme ça explose, on veut le faire sortir, parce qu'il y a ce mouvement très explosif, très c'est pour ça qu'on l'associe au feu. Et donc, mais chacun, on a tous une manière différente de qu'est-ce qui va nous mettre en colère, comment on va ressentir cette colère et comment on va l'exprimer. Je pense qu'il y a, toutes ces différentes choses. Et je pense que c'est très important, avec la pleine conscience, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère. Parce que moi, c'est seulement quand j'ai vraiment compris qu'est-ce qui se passait dans tout mon mental, mon corps, mon cœur, que j'ai commencé à être avec ma colère d'une façon très différente. Et donc, je pense que le premier pas, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Qu'est-ce que je ressens dans l'esprit? Et qu'est-ce que ça m'amène à faire? Parce que c'est vraiment là où la question d'éthique arrive. Est-ce que ça m'amène à me faire du mal ou est-ce que ça m'amène à faire du mal aux autres? Parce qu'il y a les deux aspects. Oui. Il y a les deux aspects.
Oui, mais ça peut amener à faire les deux aussi. Ouais, à faire du mal à soi-même et aussi aux autres.
Oui, exactement. Et donc, là, je serais d'accord avec vous que c'est mieux dans un sens de manifester la colère que de la garder intérieurement, parce que alors là, ça devient du ressentiment qui va finalement sortir un autre moment. Et donc, comment, avec la méditation, je peux, la façon dont je vois ça, diminuer l'intensité et diminuer l'effet sur moi-même et sur les autres. Je pense que c'est plus par rapport à ça que de ne pas le faire. Et là, vraiment, c'est de le comprendre. Et aussi d'avoir de la bienveillance envers ça, mais de vraiment comprendre quelles sont les conditions. Parce que je pense que c'est presque si on peut céder. On peut se céder à être différemment avec, mais il faut vraiment comprendre ce qui se passe. J'avais un ami, et chaque fois que je le rencontrais, en moins de 15 minutes, on était comme ça. Alors, puis c'était un autre enseignant de méditation en plus, alors ça l'affichait un peu mal. Alors, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, puis à la troisième fois, je me dis, je vais le rencontrer. Cette fois, je vais vraiment observer ce qui se passe. Au lieu d'être dans la réaction du truc, je vais vraiment observer qu'est-ce qui se passe. Alors cette fois-là, de nouveau, l'intention, de nouveau, cette intention de pleine confiance, de pleine conscience, a fait que j'étais vraiment pas juste dans l'affect, mais vraiment dans la clarté de qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui le fait réagir? Alors là, j'étais vraiment plus avec cette stabilité, ce calme, cette observation. Alors j'ai regardé ce qui se passait. Puis après, j'ai vu ce qui se passait. C'est qu'il y avait une certaine... On présupposait quelque chose par rapport à l'un à l'autre. Et donc, dès qu'on disait quelque chose, on l'assumait, on voyait comme une présupposition qui confirmait ça. De dire que la personne dit ça à cause de ça. Mais on ne sait pas pourquoi la personne dit ça, mais on pense que c'est à cause de ça, à cause de ça. Et donc là, quand j'ai vu qu'on allait partir dans le truc, j'ai rien fait. J'ai juste, ah ouais, peut-être, j'ai pas réagi, j'ai pas présupposé, il dit ça à cause de ça. Et comme j'ai pas réagi non, comme je le faisais avant, ben il n'a pas réagi non plus. Et donc on a pu commencer à avoir une relation différente. Et au lieu de... Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre quelqu'un avec l'histoire du passé. Au lieu de rencontrer la personne ici et maintenant, avec cette histoire ici et maintenant. Et donc, généralement, on apporte pas mal de choses au truc. Mais si on n'apporte pas tout ça, dans un sens, il devient plus facile de s'engager créativement. Et donc, je dirais, il ne faut pas seulement regarder cet effet explosif de « je le garde » ou « je le mets ». Mais je regarderai plus l'ensemble de ce qui se passe. Avant que je ressente le truc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je ressens le truc, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que juste ça, en fait, fait beaucoup de différence par rapport à l'amplification. Et donc, on aura toujours le « mais ça sera beaucoup moins amplifié, donc on aura moins ce sentiment que oh, il faut que ça sorte. Ça sera un peu déplaisant, bien sûr, mais ça ne sera pas aussi explosif. Oui ?
Hier et ce matin, vous avez parlé de direct et indirect. Et je voulais c'est l'ensemble qui suit et qui est autour. Comment que je peux voir la différence?
Oui, oui, ça c'est quelque chose que je, enfin, qui n'est pas techniquement parlé de cette manière dans la tradition. Et donc c'est une idée qui m'est venue au fil du temps de voir différents aspects et donc d'essayer de l'exprimer de cette manière. C'est qu'il me semble que par rapport à l'ancrage, on peut pratiquer quelque chose directement. Dans le sens, par exemple, on pratique la bienveillance directement avec l'ancrage même. De la même manière, si on pratique la respiration, en même temps, je dirais qu'on pratique directement cultiver le calme. Si on fait l'écoute, on pratique directement l'accueil. Si on met l'emphase sur les sensations dans le corps, on pratique directement d'être vraiment conscient de son corps. Donc si on fait quelque chose directement qui va nous faire une expérience relativement directe. Et donc on va voir directement la cause et l'effet. Mais ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas nécessairement toujours cet effet cause-effet qu'on peut voir directement. Il y a aussi une manière de pratiquer qui est indirecte, dans le sens qu'on va pratiquer avec un autre ancrage qui n'aura pas l'air d'avoir rien à faire avec la bienveillance, l'accueil, le calme ou quoi que ce soit. Par exemple, la pratique que j'ai faite pendant 10 ans en Corée de juste poser la question « qu'est-ce que c'est ?» On peut se dire « mais qu'est-ce que ça a à voir avec la bienveillance, le calme, etc. ?» Et en fait, en cultivant cette question, donc un ancrage très différent, j'ai quand même indirectement eu l'effet de la clarté, de la bienveillance, de la compassion. Et je pense que, parce que là, la cause et l'effet n'étaient pas tellement dans l'ancrage même, l'objet de l'ancrage, mais dans le fait, donc on revient un peu en arrière, dans le fait de cultiver l'ancrage de quoi que ce soit, de cultiver le regard profond de quoi que ce soit, aura l'effet d'amener la bienveillance et d'amener le calme. Et donc c'est ce dont je voulais parler. Donc, est-ce qu'on regarde l'objet qu'on va utiliser pour l'ancrage ? Ça aura l'air plus direct dans un sens. Ou est-ce qu'on regarde en arrière et on regarde plutôt la base de la méditation, l'ancrage et le questionnement, le regard profond ensemble. Je pense que ça a son effet. Oui.
J'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on cultive la bienveillance au milieu de personnes qui ne sont pas dans la même démarche, voire qui ne cultivent pas du tout la bienveillance, donc qui ne sont pas bienveillants. Et ma deuxième question porte sur la notion du regard profond, si vous pouvez l'expliquer aussi un petit peu.
Alors, le regard profond, on va faire ça cet après-midi en fait, donc je vais en parler en détail, je vais regarder ça en détail, et, parce que moi je mets totalement le regard profond, enfin, c'est la façon dont je traduis vipassana. Quand on utilise le terme vipassana, il y a deux façons de l'utiliser, avec un grand V, et en fait, vipassana, un grand V, on réfère à la tradition vipassana qui se trouve dans le Theravada, dans le bouddhisme du sud-est asiatique. Mais si on utilise vipassana avec un petit V, ça veut juste dire, en fait, vie, profond, passana, voir. Donc, vipassana, techniquement, ça veut juste dire littéralement regarder profondément. Et après, on peut traduire vipassana par, des fois, questionnement expérientiel, recherche expérientielle, regard profond. Mais là, il y a encore un autre truc qui arrive, je vais peut-être pas en parler, cet après-midi, c'est le fait que quand on prend un terme comme vipassana, on peut le regarder comme on peut le traduire en tant que cultivation de quelque chose qui va être de cette recherche expérientielle, ou on peut le traduire dans le sens de l'effet de cette cultivation, et alors vipassana va être traduit par compréhension profonde. Et donc, est-ce qu'on regarde ce que l'on fait techniquement ou l'effet que cela a? Et c'est pour ça que des fois, vipassana peut être, on peut parler de la tradition de la compréhension. Et donc, on a l'idée qu'on doit avoir plus de clarté, qu'on doit voir quelque chose. Alors, de nouveau, alors donc, c'est, est-ce qu'on voit la cultivation, est-ce qu'on voit l'effet de la cultivation? Et donc, il y aura deux termes un peu différents par rapport à ce mot. Et j'en parlerai plus cet après-midi. Après la première question, j'ai déjà oublié.
C'était cultiver la bienveillance au milieu des
personnes
qui ne cultivent pas la bienveillance.
Alors là, je vais parler un petit peu de ça si j'ai le temps cet après-midi. Ce serait la sagesse et la bienveillance dans le sens. Je pense que de toute façon, d'être bienveillant, c'est une bonne idée. Mais la bienveillance est toujours mis ensemble avec la sagesse, de la même manière que la compassion, que la joie appréciative. Donc, on peut être bienveillant. Si on est avec des gens qui ne sont pas bienveillants et qui spécialement veulent prendre avantage sur vous-même et tout ça, ou qui sont agressifs, bien sûr, on préfère la même chose qu'eux. Ou on peut essayer de voir comment je peux éviter ces personnes, c'est aussi une idée, ça dépend si c'est au travail ou si on les rencontre de temps en temps. Et donc, c'est de, quand je suis dans un milieu qui est difficile, qui n'est pas bienveillant, comment moi puis-je le rendre bienveillant? Si je ne peux pas le rendre bienveillant, comment je peux au moins désamplifier, ne pas contribuer à cet état de difficulté, d'argumentation, de choses comme ça. Et donc là, il faut voir quelles sont mes limites, comment je dois prendre soin de moi-même, comment je peux... C'est presque comment sont la plus petite chose que je puisse faire dans cette situation. C'est la chose que je regarderai. Comment je peux me protéger, comment je peux m'aider, comment je peux être avec ces personnes, et presque aussi de voir, est-ce qu'il y a un moyen de toucher ces personnes de telle sorte qu'ils puissent accéder un peu plus facilement à leur bienveillance, si c'est possible. Donc de nouveau, il faut voir. Des fois on peut, des fois on peut pas. Ça dépend vraiment du milieu, ça dépend vraiment des personnes, et ça dépend aussi comment on est dans cette situation. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter là, parce qu'on a 5 minutes de repos, de méditation marchée, d'aller aux toilettes, pendant qu'on va finir de poser toute la nourriture. Et puis, dans 5 minutes, je pense qu'on pourra tous manger. Et donc, on va avoir ce temps de repos jusqu'à 2 heures. Alors, si vous pouviez tous arriver à 2 heures moins 5, ça serait bien. Aussi, je voulais de nouveau dire juste quelques mots par rapport à la dana, au fait qu'il y a juste quelques personnes, mais juste de rappeler qu'il y a une boîte là-bas au fond pour les dons pour l'enseignant, parce que je ne reçois rien de Terre d'Éveil, et que c'est une tradition qu'on veut vraiment continuer, parce que je pense que vous avez peut-être remarqué que généralement, bien sûr, vous payez quelque chose pour louer la salle et payer mon trajet, mais vous payez le minimum, parce que c'est ce que j'admire beaucoup avec Terre d'Éveil, c'est que tout le monde est très dévoué dans cette association pour essayer de garder tout cela très accessible, parce qu'autrement on sait combien d'autres week-ends peuvent coûter, des fois ils peuvent même coûter votre mois de salaire. Et donc ici on essaie vraiment que ça soit accessible, ça c'est une idée importante, et aussi de voir avec les moyens que chacun a. de telle sorte que si on a peu de moyens, on peut mettre peu, si on a plus de moyens, on peut mettre plus. Et donc, il y a vraiment aussi cette générosité entre les personnes qui sont ici, qui soutiennent les uns les autres, et en même temps, bien sûr, qui soutiennent l'action de l'enseignant, parce que nous aussi, on ne peut pas vivre que d'eau fraîche. Et donc, on a besoin aussi d'être soutenus financièrement. So, je vous remercie à l'avance du soutien financier que vous allez contribuer. Merci. Et en même temps, est-ce que vous pourriez mettre vos dons avant 5 heures? Parce qu'à 5 heures, il faut vraiment que je parte pour aller prendre mon train. Et donc, je vous remercie de ça à l'avance. Et il y a peut-être...
Oui, j'ai une chose à dire. Ça, donc, c'est dans la boîte rouge là-bas, qui est posée sur la table au fond. Et aussi, dans le cadre de Vigipirate, ils vont fermer la porte en bas. Ils la ferment entre midi et 3 heures de l'après-midi. Donc si chacun peut être vigilant, si quelqu'un est dehors, qui n'arrive pas à rentrer, de regarder, de lui ouvrir la porte, voilà, comme ça on arrivera à circuler. Mais ils sont obligés de faire ça dans le cadre de Vigipirate. Voilà, c'est tout.
Simplement chacun regarde si la personne est coincée dehors, tu vois, il faut que les gens soient un peu vigilants pour ouvrir.